Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Les mecs que je veux ken.
Alors, j'ai écrit un petit poème. Tac, tac, tac.
Toi qui l'as écrit ?
Oui. Enfin, petit poème. Petit texte, quoi, d'introduction.
Une demi-heure.
Oui, non. Bertrand Huzel, ou la passion pour le métier de comédien. Bertrand, start-upper à succès, quitte tout pour devenir comédien et préparer un seul en scène sur son adoption. Pour cela, il crée une pastille sur Insta où il récolte des avis sur le métier d'acteurs tels que Vanessa Guide, Julie Debona, Jonathan Lambert, Camille Lelouch, Monsieur Poulpe, Tristan Lopin, Morgane Cadignan, Augustin Trapenard, Sarah Stern ou encore Fred Testo qui est aussi passé à la réalisation du projet, il me semble, depuis que les vidéos sortent sur TMC. C'est un succès. L'exemple d'un succès, des centaines de milliers de vues, de commentaires ultra positifs, au point que tout le monde me dit « Mais fais comme profession comédien !» Transforme les mecs que je ken en profession comédien, en pastille Insta qui ira à la télé. J'ai pas transformé les mecs que je ken en profession comédien, mais je suis ravie d'inviter Bertrand Huzel dans mon podcast. Et oui, pourquoi pas, parlons du métier de comédien. Au bout de tant de capsules, qu'as-tu retenu, appris, compris, ressenti, cerné de la passion de jouer ?
Bah, écoute, déjà, merci pour l'invitation, Rosa. Merci pour ce que tu viens d'écrire, ça, c'est très touchant, c'est très gentil. C'est pas con de faire les mecs que je veux ken en...
En vidéo, tu veux dire ?
Ouais.
Les mecs que je veux ken en vidéo. Je pense quelques épisodes exceptionnels, type peut-être le 100e épisode, je me disais faire un grand...
Et en cut plus, tu vois.
Ouais.
Parce que tu moi, je serais bien en cut. Tu fais 10 mecs, et je vois très bien en cut.
Ouais.
Et, ou en 5, là, tu vois, mais en fait, tu vends plus un format 5, enfin, tu vois, ça va vite. Hein. Tu fais 5 mecs, ça peut être cool, hein, cut.
C'est-à-dire
qu'en fait, tu prends n'importe quoi,
ouais.
Tu prends Jérémy Crédville, machin, ouais. Ferrari, je sais pas, t'en prends 3.
Ouais.
En fait, tu les fais en cut l'année d'un, et à chaque fois, mais non, je veux pas de ken. Bah, si, moi, je veux de ken. En fait, ça se rebondit, c'est l'un l'autre, tu vois.
Ouais. Et
plus ça se croise, en fait, par rapport à ce qu'ils vont me dire, par rapport à toi. Après, il faut juste trouver ton angle à toi pour voir si tu veux. Enfin...
Mais en ce moment-là, en effet, les mecs que je gagne deviennent profession comédien. Tu vois,
ouais.
C'est ça le truc. Alors que l'idée, c'est vraiment, au contraire, c'est l'inverse de ça. C'est vraiment de la discussion longue.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Et,
c'est pas du tout la même approche.
Non. Toi, ils font combien d'ailleurs tes épisodes
Ils font 2 minutes, 33 minutes max. En fait, on a tourné à peu près 70 pastilles. Voilà, plus quelques-unes là récemment, plus le prime time. Donc finalement, on va se retrouver avec une centaine. Ça vite arrivé, là, une centaine de pastilles, donc ça va hyper vite. Non, on a eu la chance, voilà, d'être opéré par TMC, de pouvoir faire plein de choses. Et donc de rencontrer des talents incroyables. Et d'ailleurs, ça se limite pas qu'à des acteurs. Il y a aussi des chanteurs, il y a des sportifs. Donc c'est assez marrant parce que l'appréhension de ce métier, elle vient en fait de choix. En fait, on comprend, toi, tu parlais de choix, d'avoir tout plaqué, etc. Et je pense qu'avant tout, de savoir, parce que c'est toujours a posteriori qu'on sait si c'est vraiment le métier, c'est comme le mec de ta vie ou la nana de ta vie, tu sais à la fin quand t'es mort, quoi. Si t'as fini avec elle ou avec lui. Et ben moi, je pense que c'est la même chose. Quand tu te lances dans un projet, tu sais pas finalement s'il te convient. Mm-hmm. Moi, quand j'ai tout plaqué, finalement, j'avais le doute en moi, et d'ailleurs, j'ai toujours, évidemment. Mais de me dire ce que je suis vraiment fait pour ce métier, est-ce que je suis légitime, est-ce que je serais porté des projets, quelqu'un se lance en scène, une prod, etc. Et donc, je pense que c'est en faisant qu'on le sait, évidemment. Mais je pense que c'est d'abord un choix qui est plus fort que toi. C'est un choix qui te dépasse un peu. Moi, j'avais une boîte, tout se passait très bien. C'est pas par défaut, je me suis pas dit, je m'entends plus avec mon associé, mon entreprise, elle me fait chier, etc. En fait, j'avais un truc un peu plus... je vais pas dire plus grand, parce que c'est pas, ce serait un peu péjoratif de dire ça, mais quelque chose qui est de l'ordre un peu d'irrationnel, où tu te dis, si je le fais pas, je sais que je vais passer à côté de my life, je sais que je vais passer à côté de ma vie, de tout ce que j'ai peut-être voulu au fin fond, de tout ce qui a germé dans ma tête depuis quelques années. Et donc, faut que je me lance, de monter sur scène, de raconter des choses, de vouloir jouer, de vouloir écrire. Moi, en plus, quand je me suis lancé, je voulais faire un peu tout. D'ailleurs, peut-être qu'à un moment, je vais me recentrer sur ce que je saurais faire de mieux, je sais pas encore. Mais je pense que d'abord, la première chose que j'ai retenue de tous les épisodes, c'est des gens qui ont fait des choix et qui les dépassaient. Alors, soit c'était par hasard, c'était parce que les choses ont fait que dans leur vie, ils sont devenus comédiens, etc., un peu par hasard. Mais pour la plupart, tu vois quand même que c'est quand même des choix, quand tu parles un peu en off avec eux,
ouais.
C'est des choix hyper personnels, de par des névroses, de par des envies, de par voilà. Je pense que tu es assez bien placé pour savoir qu'on a tous envie de monter sur scène pour des raisons différentes, qu'on avait quelque chose quand même à exhorter, à expulser, à dire. Jamais avec la colère, mais plutôt quand même des... Voilà, et qu'il faut être toujours apaisé, mais toujours aller chercher au fin fond de nous quelque chose d'intéressant. Et je pense que c'est ça que j'avais envie de retranscrire, de montrer, de vouloir écrire. Donc je pense que d'abord c'est des choix, et après la deuxième chose, quand je discute avec eux, c'est chacun, il n'y a pas un modèle évidemment prédéfini de comment devenir acteur ou comédien. Je pense que c'est un sujet que de sensations. C'est qu'en fait on peut travailler le texte mille fois, on peut aborder un texte ou un rôle mille fois. Là, mais en fait je pense que c'est des gens qui ont compris, les bons en tout cas, du moins c'est, voilà, ceux qui m'ont donné des conseils. Donc sur comédien évidemment il y a toute une satire autour de ces épisodes où je me fais tacler, mais la plupart c'est quand même, tu te rends compte que c'est quand même des gens qui vivent avec des sensations, avec des choses, que, voilà, ils vont chercher en eux finalement ils apprennent le texte par cœur, mais après c'est un moment T que ça se passe. C'est pas finalement en disant j'ai fait 15 ans de théâtre et c'est avec ça que je vais faire, avec une technique particulière. C'est en fait un moment T, faut que je ressente une émotion, quelque chose, et puis je la balance. Et je pense que voilà, c'est ça qui m'a un peu remis un peu droit dans mes chaussures, dans mes bottes quand j'ai fait ça avec eux. C'est que je me suis dit finalement on en revient un peu à ce pourquoi je pense qu'on a envie de faire ce métier. C'est d'être un peu ce côté un peu abyssal, un peu vertigineux, d'être au bord du fossé, de toujours dire est-ce que j'aurai cette émotion là, est-ce que je serai à la retranscrire, est-ce que je serai à la dire avec les mots justes, avec la bonne émotion, avec la sincérité la plus profonde qu'on essayait de donner à un public. Et voilà, donc c'est pour ça que tout ça à la fois me confortait dans l'idée que j'étais à ma place et à la fois me faisait douter, parce que je me disais putain, est-ce que je serai à la hauteur de tout ça, quoi.
Mais c'est marrant parce que tu dis que finalement c'est les conseils que les comédiens t'ont donné en off, ouais. Donc tu veux dire que les vrais conseils ils sont pas dans profession,
ouais,
comédien.
c'est
des secrets.
C'est les secrets. Et puis voilà, tu vois bien, en fait l'idée de nous c'était de montrer que voilà, les gens voulaient pas que je rentre dans le game, et que
c'est
je trouve que c'était ça la mécanique de vanne qui marchait bien, c'est qu'évidemment il me décourage un peu pour faire ce métier là et chacun ses raisons de me décourager,
ouais.
Mais voilà, c'était ça qui était intéressant dans la mécanique. Mais évidemment en off j'ai un peu le temps de parler avec eux,
ouais.
Même si parfois c'est un peu court, parce que toi on fait 20 épisodes parfois par jour là, donc d'un coup c'est un peu la chaîne malheureusement,
ouais, ouais.
Donc on n'a pas toujours le temps de prendre le temps avec les gens, mais c'était c'est ça qui est assez fabuleux, c'est de pouvoir quand même avoir quelques, tu vois, des abos de Bretman, etc., qui te donnent des conseils en off, tu rencontres ces gens-là, enfin c'est...
Ouais, c'est magique.
Donc, ouais, c'est assez magique. Ouais.
Et attends, est-ce que c'est des épisodes que toi t'écris une trame à l'avance, un personnage, tu te dis on va aller par là, ou est-ce que c'est en coécriture avec les invités, c'est qu'en impro?
En fait, j'appelle tous les invités avant,
ouais.
Un peu la veille ou l'avant-veille. Et en fait, il y a plusieurs typologies en fait de gens. En fait, il y a des acteurs qui disent, c'est-à-dire c'est plutôt le monde du théâtre, ils veulent un texte écrit, et puis en gros ils l'apprennent par cœur, et puis après ils vont un peu surfer dessus. Après, il y en a ceux qui disent donne-moi deux trois idées, et puis voilà, je vais me démerder avec. Et puis il y en a d'autres qui arrivent carrément avec leurs idées, qui disent on va faire ça. Tu vois,
ouais.
Et ça c'est plutôt en général les humoristes, ouais. Les stand-uppers qui arrivent avec leurs idées, leurs vannes, et c'est béton armé, ils envoient. Et en général, c'est les plus efficaces en vrai,
ouais.
Parce qu'ils ont cette habitude de l'improvisation, de pas trop avoir ce côté un peu en direct, voilà. Donc c'est assez fabuleux aussi. C'est ça qui est assez génial dans ce format là c'est que moi c'est un peu une masterclass en vrai aussi, hein.
Ouais, parce c'est vrai, c'est vrai, tu t'es bien débrouillé, ouais.
Je me suis fait une masterclass un peu en avance rapide, mais c'est un peu une masterclass accélérée, c'est exceptionnel.
Et c'est... tu connaissais déjà autant de comédiens avant de lancer le projet?
Non,
ou...
j'en connaissais quasiment aucun. J'en connais. En fait, moi, pour faire un peu la rétrospective du truc, c'est que moi, quand j'ai commencé à créer mon spectacle, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est Fred Testo.
Ok.
Et je lui dis, écoute, mon vieux, on se connaissait un peu, on avait tourné une petite série avant, mais c'était vraiment pas grand chose. Et on était resté en contact, on était resté assez potes. Et un jour, je lui dis, voilà, je suis en train d'écrire un spectacle. Je sais pas où on va, mais on y va. Et qu'est-ce que t'en penses? Parce que voilà, je lui dis, voilà. Et j'ai peur. En fait, j'attendais peut-être limite qu'il me dise, mais attends, ça sort de nulle part. T'es sûr? Voilà. Et en fait, pas du tout. C'était l'inverse. Il me dit, mais vas-y, mon vieux, etc. Et mieux que ça encore. Et c'est pour ça que parfois les actes accompagnent la parole, c'est qu'ils disent. Il m'a dit, si tu veux, on se voit tous les vendredis matin.
Wow.
Et on balance des trucs et on voit quoi.
Incroyable.
Et donc pendant un mois et demi, on s'est vu un café, 2-3 heures, et on écrivait des trucs, voilà, bon, ça... Et bon, puis après, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin aussi tout seul, il fallait que j'écrive aussi. Et puis, quelques mois après, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, mais j'ai pas de garder comme auteur. J'étais un peu emmerdé, mais voilà, ouais. Je pense que en fait, là, je vois où je vais,
ouais.
Et je pense qu'en fait, c'est pas l'univers, le ton, etc. On a eu des super bonnes idées ensemble, là, donc j'étais un peu... Et là, pareil... Bienveillance de dingue, le mec te dit mais j'en ai rien à foutre, mec, j'ai pas fait ça pour ça, voilà. Je me suis toujours dit tiens, s'il y a bien un jour j'ai un projet hyper sympa, voilà, où je le rappellerai direct quoi. C'est vraiment, tu dis putain c'est voilà. Et puis j'écris mon spectacle avec deux autres auteurs. On me dit tu vas tourner en novembre 2021 et puis deuxième vague de Covid qui arrive. Et là je me dis putain merde. Et là on m'a dit je sais pas quand Bertrand, je te dis on sait pas quand tu vas jouer quoi.
Oh,
tu
vois. Ok.
Et là moi je me suis dit bon bah c'est le moment de saisir l'occasion d'essayer de te faire connaître parce que les gens ils vont regarder beaucoup les réseaux sociaux. Et deuxièmement s'il y a bien des gens qui vont se faire chier chez eux c'est les acteurs et les actrices qui sont en Covid. Donc j'ai eu l'idée de profession comédien de me dire voilà je vais jouer mon rôle quoi.
Trop mal.
Dans la vie voilà. Et donc je rappelle Fred, je lui dis voilà je veux bien que tu réalises ça.
Ok.
Est-ce que t'es ok voilà. Moi je vais le produire machin. Il me dit ouais je suis chaud grave et tout et après il me rappelle. Moi j'étais un peu naïf, je pensais qu'il allait ramener plein de gens.
Ouais.
Et il me dit non, alors attends, je lui dirais que c'est pas mon métier, moi.
Ouais, d'être programmateur.
Ouais, ouais, ouais. C'est pas. Et alors, par contre, il me dit, je connais un super programmateur.
Ok.
Il s'appelle Christian Puech. Et il m'a dit, tu vas voir, c'est notamment c'est un des programmateurs de Burger, enfin, le programmateur de Burger Quiz, okay. Plein d'émissions, de machin. Donc,
ouais.
C'était un peu le mec qu'il nous fallait à l'époque. Et toujours, d'ailleurs. Ouais. Et là, Christian, étonnamment, c'est lui qui a été difficile à convaincre.
Ok. Parce c'est que, lui qui a fallu
ouais,
convaincre.
Ouais, ouais, parce que dur. Lui, va aussi, c'est lui qui va vendre la sauce et qui va dire aux acteurs, aux actrices ou aux PR, genre, venez. Allez, venez, machin.
Ouais.
Donc au début, il était un petit peu mi-figue, mi-raisin.
Uh-huh.
Et puis après, bon, je l'ai harcelé, quoi.
Ouais.
Ouais.
C'est ce
moi,
qu'il
je l'ai violé. Vraiment. Je pense qu'il a. Christian, ce qu'on nous entend, excuse-moi. Et après, voilà. Donc après,
il a fini par dire oui.
Il a fini par dire oui. Et puis.
Et toi, t'avais le but, je te payais un programmateur, t'avais mis des sous de côté.
Ouais, j'ai mis un petit peu de sous de côté, mais ouais, c'était un peu. C'était,
c'est un risque, c'est quand même.
Là, j'ai fait all-in sur l'histoire. Hein.
Ouais, voilà. Ouais, t'as tout parié. Et
en fait, première session se passe, c'est enfin, par contre, alors 20 d'un coup.
Ouais.
Et là, dans la journée, là, j'ai envie de... En plus, l'émotion de la première, etc., ouais. T'es un peu... j'ai commencé, le premier, c'était Boon Haemin.
Ouais, génial.
Donc, non, alors, j'ai de la chance que le premier, c'était Boon, en plus,
ouais.
le mec le plus gentil de la Terre.
Oui.
Donc, c'était très cool. Puis après, non, enfin, voilà. Donc, ça a pris tout de suite, entre guillemets. Et puis, Christian s'est pris au jeu, lui qui doutait. Finalement, il s'est dit, oh, mais c'est fabuleux, ce truc-là. Et puis, voilà, après, c'était parti.
Après, vous êtes avec ta bande, quoi.
Après, on a fait notre bande. Et puis, à un moment, c'est vite faire... Bah, c'était un peu la stratégie aussi du truc, c'était de se faire... rattrapé par une chaîne.
Ouais, dès le départ, c'était quelque chose que tu avais en tête. Ah, ouais, incroyable.
Ouais, parce que moi, j'avais fait déjà une petite série qui s'appelait Bertrand Recrute, où je recrutais avec Joey Star des gens.
Ok.
Et en fait, déjà, on avait été approchés par des chaînes, et c'est là où je me suis dit, en fait, on peut aller chercher en fait, une chaîne. Moi, j'étais naïf, et je me dis, bah, en fait, si on n'a pas réussi ce coup-là, peut-être qu'on pourra faire l'autre.
Mmh.
Et donc, c'est pour ça, tout de suite, Et en fait, TMC a tapé à la porte assez rapidement.
Génial.
Et on s'est dit, bah, allez, go.
C'était l'objectif, trop bien.
Et donc, voilà. Et donc,
tu as vraiment un caractère d'entrepreneur qui n'est pas forcément. Comment dire, j'ai envie de dire compatible dans l'esprit français à celui d'acteur. Il y a une antinomie romantisée. Hein.
Ouais.
T'es d'accord?
Non, mais complètement. Non. Puis, et des journalistes aussi. Tu vois,
oui.
Des gens, au début, pour rien te cacher, c'est. Moi, je viens d'un écosystème qui est ce qu'on appelle la start-up.
Ouais.
Start-up Nation. Et la French Tech et tous les mots que dégueulasses qu'on peut dire. Et au début, les gens, si tu veux, ils disaient est-ce que c'est pas le mec un peu blindé? Start-up blindé. Je te donnais mon compte en banque, tu vois, c'est pas l'histoire. Et en fait, tout le monde pensait que c'était un peu le mec blindé qui se faisait plaisir.
Ouais, d'accord.
Donc, avec une conviction pas du tout. Complètement relative. Et donc, je me suis dit, mais pas, moi, j'étais en train de. Évidemment, tu vas pas le créer. Je suis là, j'ai envie de jouer.
Tu mettais ton cœur, quoi.
J'ai mis tout ce que j'avais. J'avais cette envie féroce de faire ce métier. Mais au début, oui, il y avait une appréhension du métier, des journalistes, etc. Dire, voilà. Et puis, en fait, voilà, c'est même les journalistes, quand ils t'aillent. Même aujourd'hui, ils ont encore ce truc. Alors, ils adorent profession de comédien.
Ouais.
Mais la scène, ils ont encore ce truc de dire, attends, est-ce que c'est vraiment pas le one shot Mais en fait, le temps fait le reste. Et puis là, on voit déjà que déjà, ça commence à...
Ouais, ça révèle plein de choses, de la difficulté de changer de parcours, de se montrer légitime, de prendre des risques. C'est comme si parfois, tu as l'impression que tout devait déjà être tout tracé
exactement.
D'avance. Quoi.
Exactement. Non, mais puis, je pense que c'est pas compatible avec le thème dont on parlait précédemment, c'est-à-dire le doute.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, je pense que pour les gens qui font ce métier et ceux qui l'entourent, je pense que c'est un métier où on est emprunt au doute.
Ouais.
Et moi, enfin, en tout cas, j'imagine que toi, tu l'es. Et moi, je le suis de ouf aussi.
Ouais.
Je doute quand je me lève, je doute quand je me couche. Et, mais c'est ce qui fait avancer. Mais pour autant, je pense qu'on n'arrive pas à rendre compatible le fait de douter de faire des choses. C'est-à-dire que moi, c'est par le doute qui fait justement de me dire, il faut que j'avance. Quand il y a des moments durs, c'est ce qui cristallise, je trouve, parfois des priorités dans ce qu'on doit faire. Et donc, c'est peut-être là mon caractère d'entrepreneur qui fait que dans le doute ou dans les moments un peu durs, une forme de résilience qui fait que j'essaie de mettre les rames et puis de mettre le moteur et d'avancer quoi. Mais en fait les gens se disent c'est-à-dire qu'il doute pas, le mec il est tu vois, le mec est à la ricain, tu vois, il a son plan, il a sa strate dans sa tête, en fait il avance. Mais pas du tout, c'est pas que j'avance, j'ai rien de prévu moi dans ma tête, c'est juste qu'en fait je suis emprunt au doute tout le temps et je me dis que
mais t'as deux trois bonnes stratégies, mais ça n'empêche que t'as le droit d'être acteur. Quand tu vois aujourd'hui les acteurs américains, ils sont tous producteurs. T'as pas une star américaine qui n'est pas en production et même en création, en réalisation. Enfin, je crois que c'est mais il reste en France cette idée de l'acteur punk, quoi, du fou, quoi, de l'alcoolo, du taré, de la personne fragile psychologiquement. Et ça, c'est vrai qu'on te le dit parfois dans les pastilles. Il y a plein d'invités qui te disent mais où sont tes failles, t'as l'air trop clean, Monsieur Poulpe qui dit
trop propre sur toi, etc. Et c'est pour ça qu'en plus c'est marrant parce que mon sujet qui est l'adoption et mon spectacle justement c'est là je peux dire là j'ouvre les deux bras et donc c'est vraiment un cœur ouvert et donc c'est d'ailleurs le spectacle est assez trash et assez là on y va dans la névrose, on y va quoi. Mais moi ça me dérange pas parce que je trouve ça plutôt intéressant de me dire finalement que le temps fait le reste, la route est tellement longue que tu vois ça m'atteint pas trop. Mais c'est vrai qu'en plus après moi j'ai un parcours qui est fait que en plus ça allait assez vite. Je rencontrais deux, trois, c'était un de peur récemment qui me disait putain, merde, c'est le format qu'on aurait dû faire. Gentiment, toi.
Oui, mais t'as dû rendre plein de gens très jaloux.
Et en fait, les gens envient un peu le truc parce qu'ils se disent putain, l'autre, il sort de nulle part ou ta petite start-up machin là, et il nous casse les couilles, il arrive, et voilà. Alors que c'est pas du tout je passe devant personne, au contraire. Hein,
Évidemment, chacun fait
mon petit bout de chemin de mon côté. Mais c'est marrant, il y a un peu des réactions, un peu de
jalousie.
Je sais pas, mais en tout cas, qui disent merde, putain, c'est vrai que c'est un truc qu'on aurait pu.
Il faut se bouger le cul et faire soi-même ses formats.
En fait, moi, c'est ce que je dis. C'est que là, pour le coup, c'est pas question d'aller vite parce que je pense qu'à un moment, il y a un truc qui te rattrape, c'est objectivement la scène et que la scène, tu peux pas aller plus vite que la musique. Là, franchement, t'as le public qui te suit, qui est là. Chaque semaine, tu remets ton titre en jeu, etc. Donc vraiment, j'ai l'impression que ça se passe plutôt normalement et naturellement. Je pense que on est dans un monde à la fois terrible parce qu'on est jugé, tout peut aller très vite comme tout peut descendre très vite, mais ça peut en effet, on peut tout faire quoi. Toi tu vois, on fait avec ton podcast, un micro, un peu de son, alors oui c'est un peu coûteux, oui on dit machin, mais ce sacrifice que tu fais dans le matériel, tu le fais pas ailleurs, et puis c'est comme mais t'as envie, et je pense que là, il en est de même pour créer des nouveaux formats. Aujourd'hui on peut être visible et créer du contenu sur Instagram, c'est génial. Donc moi je pense que la seule exigence qu'il faut avoir, c'est savoir pourquoi on le fait quoi. Je pense qu'il n'y a rien de pire que faire des formats gratuits, mais c'est...
C'était, tu voulais que ce soit rentable et que ce soit pas trop de contenu.
Et puis surtout même gratuit dans l'idée, c'est-à-dire que
le produit,
pourquoi tu le fais, qui a un sens derrière, qui a un peu de fond. Moi l'idée c'était d'amener, d'ailleurs c'est pas tout de suite été perçu comme tel, mais moi l'idée c'était quand même que ce soit une belle satire cette histoire, de dépeindre un peu le caractère humain, ce qui fait de plus beau, de plus moche, de plus machin,
de plus narcissique.
Et je trouve que de narcissique, et c'est que je voulais rendre le truc finalement dans l'œil de assez universel.
Mais parce que tu donnes la parole à tes invités, mais finalement toi, même si t'es allé sur Quotidien et t'as donné des interviews, quand est-ce que toi Bertrand, enfant, à quel âge tu t'es dit je veux devenir comédien ?
Moi à la base je voulais être pianiste.
Ok.
Donc j'ai été pianiste pendant longtemps au conservatoire, jusqu'au jour où tu te fais virer. Je faisais du théâtre aussi un peu au théâtre.
Fait virer ?
Parce que j'avais plus le niveau quoi.
D'accord,
C'est vraiment...
Quel conservatoire ?
National de Région à Rueil-Malmaison.
Ok.
Et je faisais du théâtre aussi là, dans la classe de Max Fournel. Et en fait, à un moment, j'ai dû choisir, parce que c'était trop, tu vois, théâtre, machin, et piano. Et comme j'étais objectivement plus avancé dans le piano, je trouvais ça trop dur, parce que j'ai fait vraiment... tu sais, quand t'es gamin, et que tu fais des gammes à partir de 6 ans jusqu'à 12 ans, et que tu fais ça, que tu fais des concours par-ci par-là en France, tu dis, j'ai quand même plus donné dans le piano que dans le théâtre. Et donc, je dis, c'est trop con de mettre ça à la poubelle, donc j'ai continué dans le piano, et j'ai dû arrêter le théâtre. Et en fait, ce qui était très dur pour moi, c'est quand j'étais viré vers 15-16 ans du conservatoire parce que j'ai plus le niveau. Uh-huh. Parce que toi, c'est l'écrémage, hein, c'est comme tout. À un moment, on dit, bon, bah, à un moment, ça s'appelle le talent, il sera pas au rendez-vous l'année prochaine parce que, ouais, c'est. Il y a des gens tellement plus forts que toi, et à un moment, il faut se rendre à l'évidence, ça c'est vrai. Uh-huh. Et là, ça m'a fait un double arrêt. Je me suis dit, on fait comprendre à 15-16 ans que tu ne feras pas le métier que tu avais envie de faire. Mmh. Et de deux, je me suis dit, putain, j'avais toujours eu ce regret, pour rien te cacher, que de pas avoir pu faire, plus persévérer dans le théâtre. Et je dis, putain, j'ai tout lâché pour ça, quoi. Alors que ça se trouve, le théâtre, j'aurais peut-être bien marché, ou j'aurais cartonné, ou bien j'aurais juste kiffé ma vie, et voilà. Et donc, j'avais vachement ce regret-là. Et puis c'est que ça a continué à germer. Et puis à un moment, j'étais dans une petite école de commerce, je me faisais chier. Et un jour, en cours, je me dis, putain, je peux pas rester une heure de plus dans cette école-là. Et donc là, je tape sur Google en plein cours, studio de musique. Et moi, j'étais dans le 19e et je vois que le studio de musique le plus proche, enfin en tout cas qui était référencé sur Google, qui me paraissait le mieux, c'est le studio de la Seine, à Bastille. Donc je m'y rends. Et c'est un peu comme ici, c'est un peu, tu sais, dans les studios-là, tu peux rentrer un peu comme tu peux rentrer, quoi. Et moi, je suis rentré, et puis à ce moment-là, j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire, travailler dans des studios, faire de la musique là, etc. Je te la fais courte, j'ai rencontré des gens, et en fait, le lendemain, on m'a dit, ils cherchaient à cette époque un mec à 6h du matin qui venait là pour brancher les fils, un peu comme, tu vois.
Okay, un technicien.
Un technicien, un régisseur, enfin tout, quoi. Moi, j'avais 18 piges, tu vois. Et j'ai trouvé ça génial, donc j'ai commencé à faire ça pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, et puis après je suis allé voir mon directeur d'école en disant je veux faire ça.
Ok.
Et donc je pense que je suis le premier mec diplômé, enfin pas diplômé, mais qui a au moins.
C'était quoi comme école?
C'était l'INSEC.
L'INSEC,
à Paris, ouais.
Et donc ça, tu dis, et tes parents par rapport à ça?
Je ne savais pas, je ne leur disais pas.
Tu ne leur disais pas, d'accord, ouais. T'as gardé le mensonge.
Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, ils payaient une école, tu vois, post-bac un peu cher.
Ouais.
Et donc, je suis allé voir le directeur, je dis, bah, comme je sais que l'école n'est pas donnée, je pense que perdre un élève, ça vous ferait chier.
Ouais.
Donc moi, on fait un deal entre vous et moi, soit vous m'accordez le fait que je ne suis jamais là à l'école, mais que je fais les
examens. Tu veux dire, t'as examens. Demandé de mettre le directeur complice dans le fait de ne pas
prévenir tes parents? Ouais, je lui dis, voilà, j'étais majeur, donc je dis, voilà, ouais. C'est entre vous et moi, quoi. Moi, okay. je suis majeur, je fais mes examens tous les trimestres, mais en revanche, je suis pas là à vous court, quoi.
Ok, empochez la thune, mais laissez-moi libre.
Voilà, exactement. Et le mec a dit oui.
Ouais.
Et
tes parents, quand ils l'ont appris, ils étaient pas furieux?
Ils l'ont appris, mais très très tard.
Ok.
Ouais, ils l'ont appris très très tard et ça les a fait plutôt marrer à la fin, quoi. Enfin, sachant que ça les a pas fait rire du tout, je pense. Voilà, comme j'aurais montré que ça se passait bien, que j'avais des contrats de musique, etc. Moi j'ai monté ma petite boîte, donc ma première boîte c'était une boîte de production, j'ai des musiques de pub,
okay.
Digitales, etc. Donc voilà, c'était ça, ça commençait comme ça, donc je composais des trucs avec mon piano. Et puis ça a duré 10 ans, donc c'était super, on était une dizaine là, dans la boîte. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je me faisais un peu chier. Parce que, tu sais, moi je voulais être pianiste finalement, et tu te retrouves à faire des musiques avec trois notes sur un synthé, à mixer ça pour des clients objectivement qui, voilà, un peu relou.
Mmh.
Et un jour je me retrouve, c'était pour une marque de cosmétiques, et puis là je suis dans un studio avec une espèce de palette de maquillage, et le mec fait faire tomber les paillettes sur le truc et tout, puis il y avait 15 personnes autour du truc qui s'excitaient.
Mmh.
Et j'ai dit, je peux pas continuer à faire ça.
Mmh.
Et donc là, je parle à mon meilleur pote et je lui dis, écoute, j'ai envie de monter une autre boîte là, parce que là, le sens de ma vie là, c'est en train de partir en couille. Là,
ouais, la pub te fait ça, la pub te. Je vois tout à fait ce que tu veux dire.
Je suis en train de sérieusement de perdre là.
Ouais.
Et donc, il m'a dit, mais écoute, ça tombe bien, parce que moi aussi, j'ai envie de quitter ma boîte, j'ai envie de monter une boîte. Et on s'est dit, mais par contre, si on fait un truc, faut qu'on réinvente un secteur, quoi, qu'on se marre, quoi. Et en fait, on a épluché plein de projets. Tu connais, hein, les projets, tu dis, tu tombes dans les bras à 7h du mat, t'as mis au petit bourré, ouais, on se lance demain. Et puis, tu te rappelles 2 heures après, on est censé à chier.
Ouais.
Et puis, finalement, c'est sa vision. Et lui, t'es un mec assez brillant, même très brillant. Et qui me dit un jour, je pense qu'il faut qu'on s'attaque à une expérience qui n'a pas été jusqu'à présent renouvelée et qui est bonne. C'est l'expérience de chercher un travail. Et il me dit, regarde, aujourd'hui, quand tu regardes les gros, tu cherches un job. Bah, c'est un enfer, quoi.
Mmh.
Il dit, tu coches des cases, tu fais souvent des trucs au hasard, on te répond jamais. Et il me dit, qui plus est, et là, c'était ça la vision qui m'a plu. Il m'a dit, aujourd'hui, tu as du contenu sur tout. Tu regardes, tu loues une chambre d'hôtel, tu as du contenu, une bagnole, une boîte d'air éco-vert, tu as du contenu. Il me dit, sauf sur le secteur qui devrait être le moins opaque de la Terre, qui est le travail.
Mmh.
Et donc, il m'a dit, on va créer le Netflix du taf.
Yes.
En gros,
c'était Welcome to the jungle. Ouais.
Et c'est comme ça, moi, je comprenais rien ce qu'il me racontait. La première fois qu'il m'en a parlé, ça me faisait un peu chier, je t'avoue. Est-ce que je ne sais pas trop ce qu'il voulait raconter. Et puis moi, je me suis dit, ouais, ça doit être trop bien.
Ouais.
Et en fait, je voulais juste bosser avec lui. Tu vois, moi, je me suis dit, putain, en fait, je vais être avec mon pote, je trouve que son idée est bonne.
Ouais.
Et puis, il m'a dit, toi, je te vois trop dans la prod, machin, etc. Donc, je dis, ok, tu aurais peut-être raison. Donc je me lance un peu avec une conviction assez, ouais, pas ouf en vrai, tu vois. Uh-huh. Pas... Et après, on commence à bosser ensemble, évidemment. Au début, et ce qui m'a plu, c'est que c'était très dur. Personne ne croyait au projet, c'était compliqué de toi. Et ça m'a fait bander.
Incroyable.
Ça m'a fait bander de ouf. Je me suis dit, putain, mais c'est génial, on en chie, c'est génial. Parce que jusqu'à présent, toi, j'en chiais pas.
C'était très bizarre,
mais je faisais de la pseudo musique. Je gagnais pas trop mal ma vie, mais je me faisais chier comme un rat mort. Mmh. J'étais sur mon synthé et tout. Et là, je sais pas, il y avait un truc d'adrénaline, d'en chier, de repartir au turbin à 30 ans, tu vois. Je me dis, putain, mais c'est fabuleux d'en chier comme ça. Avec ton meilleur pote, on se retrouvait vraiment dans une cave, dans un incubateur à Fonfon de Paris. Enfin, c'était, je sais pas, j'avais l'impression de revivre un truc, tu vois, un peu vivant. Et moi, c'est vraiment des super période de ma vie.
Ouais.
Et étrangement, tout le monde dit, mais c'était tellement dur pour vous. Je dis, bah oui, c'était dur, mais c'était assez fabuleux.
Tu te sentais vivant, quoi.
Ouais, vivant de ouf. Et je pense qu'il y a un parallèle à faire avec la scène. Je pense que c'est ce qu'on fait, c'est exactement ça aussi, tu vois. C'est, je pense qu'il y a, c'est très dur ce qu'on vit, mais c'est, quand ça passe, c'est fabuleux, quoi. Et,
ouais, puis c'est peut-être aussi un symptôme de notre génération. C'est le film sur sur Zuckerberg, The Social Network, de David Fincher. Il y a, je sais plus si c'est dans ce film ou en fait celui qui disent qu'en gros Harvard, tu sors pas d'Harvard pour avoir un métier, tu sors d'Harvard pour créer ton métier. C'est la romance du truc, mais il y a quelque chose de totalement fantasmagorique, parce que ça paraît hyper privilégié comme ça de dire ça, mais je pense que oui, t'as besoin au maximum de te sentir libre. Et je vois ce que moi, là où je m'identifie à ce que tu dis, c'est sur la liberté que moi me donne le podcast, tu vois, d'être seule aux manettes. Alors bien sûr, c'est un enfer et comme toi, c'est dur parce que tu vois techniquement l'argent, etc., les trucs. Tu réponds pas, t'es pas là. Un client qui te dit, ah, il y a plus de paillettes à gauche qu'à droite, il faudrait pas. Et puis ça, deux heures sur les paillettes, quoi.
Oui, puis le plaisir de créer et d'avoir cette liberté-là, et d'impression de faire quelque chose. Évidemment, t'en chies, mais c'est fait partie du principe de la règle du jeu, et c'est ça qui est aussi fabuleux, je trouve.
Et là, votre site marche et donc ça décolle.
Et donc là, la boîte maintenant, là, ça fait un bout de temps qu'elle marche bien, et là, c'est plus du tout, là, évidemment, la même boîte qu'avant, mais c'est fabuleux. Mais donc moi, j'ai lâché. Tu vois, je suis plutôt personnel depuis un an. Et voilà, pour vivre cette aventure.
T'as gardé des parts et tout, des actions
Mes parts. Ouais. Mais je me voyais pas rester pour deux raisons, vis-à-vis des salariés déjà. Parce que c'est un peu, je trouve ça, quand tu fais des switches comme ça aussi fort, je trouve que c'est un peu compliqué pour les salariés. Mais il est où lui? Il a le cul au chaud ici, puis il va sur scène. Enfin, tu vois,
pour expliquer aux auditeurs, Welcome to the Jungle, c'est une plateforme via laquelle les gens peuvent trouver du travail.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Le titre est top aussi.
Ouais, ça c'est.
Welcome to the Jungle. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment la jungle. Et tu t'es pas dit, après le succès de Welcome to the Jungle, que vous alliez créer votre appli de rencontre Parce que la jungle affective, c'est aussi.
Ouais, on s'est dit que c'est un.
Il y en a déjà plein.
Ouais, puis on s'est surtout. Moi, on s'est surtout dit, voilà, le travail, je pense que c'est tellement vaste. Je pense que c'est le secteur le plus riche aujourd'hui à aller conquérir, parce qu'il y a des millions de métiers. Il y a le métier dans. Les métiers d'aujourd'hui n'existeront plus de dans 10 ans.
Ouais.
Et ce seront des nouveaux métiers. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de travail à faire sur éduquer justement les entreprises à essayer d'être beaucoup plus en phase avec les attentes de la nouvelle génération et de ce pourquoi ils veulent faire des métiers et ce à quoi ils aspirent. Donc nous, on est moi je trouve que déjà c'était on a mis un petit grain de sable quelque part, il a bien poussé. Et aujourd'hui on a la chance de pouvoir avoir une super belle boîte, une super belle équipe, et je trouve que quant à ça,
ça y est,
qu'il faut savoir.
Et c'est au moment où tout d'un coup tu t'es senti confortable que tu t'es dit, il me faut un nouveau challenge, quoi.
Ouais, alors oui, et alors aussi parce que donc un jour pour Welcome to the Jungle, Jérémy vient me voir, il me fait, putain, alors je te l'ai fait en toute transparence, hein, c'est vraiment, il n'y a rien à cacher d'ailleurs. Jérémy vient me voir, mon associé, il me dit, putain, on a plein de vidéos. Parce que donc on raconte plein de tous les métiers des gens, etc. Mais enfin, on fait pas beaucoup de vues, quoi. Je sais pas, dernière nouvelle, oui, c'est pas le genre de vidéo qui buzz, ouais. Et il me fait, ouais, mais on faudrait faire une vidéo où vraiment ça, on voit, parce que là, tous nos clients, ils nous proposent, ils nous demandent de faire des vidéos, et alors qu'on leur propose des prix, ça passe pas. Parce que, tu vois, on n'a pas encore fait la vidéo qui buzz. Et moi, je dis, mais moi, je pense que c'est complètement con, on va faire une vidéo qui buzz, etc. C'est pas notre truc. Puis le buzz, c'est quand même. Parce qu'on a vraiment envie de faire d'être ça. Et à part avoir une pancarte où je suis à poil et monter un panneau sur ma bite, hein, quand je recrute, je voyais pas trop comment dépatouiller. Et puis il me dit, bon, bah, réfléchis, il faut vraiment qu'on fasse une vidéo dans un mois. Voilà. Je dis, putain, bah, sympa. Et puis un jour, là, 15 jours après, bon, je réfléchis à plein de trucs, je vois toujours pas. Et 15 jours après, je me retrouve à Biarritz, dans une soirée où Joey Starr avait fait son un concert et je me retrouve dans un appart avec lui et on est 10 dans l'appart. Et il vient me voir vers 3h du mat, pas du tout bourré, et il me dit « Toi, tu fais quoi Bertrand dans la vie déjà ?» Et je dis « Bah, moi j'ai une start-up » et le mec se barre.
Ah ouais, c'est le mot qui l'a fait fuir.
Je sais pas, mais en tout cas le mec, je sais même pas si c'est le mot ou moi, mais en tout cas les, ou les deux, mais en tout cas le mec s'est barré au moment où je commençais à faire ma première phrase.
Okay.
Et là je le regarde et j'ai fait une petite fulgurance, j'ai dit « Putain, s'il y a bien un mec que je pourrais jamais recruter, et qui s'en branle du, enfin, entre guillemets, du, pas du travail, parce que c'est un gros travail,
ouais,
mais du milieu de l'entreprise, qui sait pas du tout ce que c'est qu'un recrutement, etc., c'est lui, quoi. Mmh. Et il n'y a pas besoin d'expliquer la blague. Donc, je vais dans ma chambre, j'écris un sketch où je le recrute, lui en tant que community manager pour mon entreprise,
ouais.
Et le lendemain, dans l'avion, je lui fais lire. Et là, je le parie comme Christian Puech, je le harcèle, je le viole, ouais, aussi. C'est plus difficile à violer, mais.
Tu es star, ça doit faire peur, ouais.
Ça fait robe de ouf, ouais. et là, une semaine ou deux après, il vient au bureau et on tourne cet épisode-là où j'appelle Bertrand recrute Joey Star.
Okay.
Et là, ça fait un carton. Donc sur Internet, voilà, ça marche très fort. Et c'est là qu'après, j'ai 10 idées. Donc il y a Baptiste Le Caplain qui vient, mais les doutés. Donc on fait Bertrand recrute différents, machin. Et c'est là qu'en fait, bah, déjà revient ce petit truc en moi d'envie d'écrire, de jouer un peu, tout ça. Et je me dis, mais putain, mais j'adore ça, c'est génial.
Ouais.
Donc, je me prends au jeu, plus les épisodes marchent bien. Et je me dis, bah, putain, voilà. Et c'est là aussi où les chaînes commencent à arriver. Et moi, j'ai même des agents artistiques qui arrivent, qui disent maintenant, on veut te signer. Enfin, mais, donc, moi, je dis, attendez, moi, j'ai une boîte, les gars. Enfin, Donc, j'en parle à mon associé. J'ai dit, bah, signe, t'en fous, on voit, ouais, où ça nous mène et puis on verra, tu vois. Et donc, voilà, donc, de fil en aiguille, on a fait Bertrand Recrute. Je me suis laissé un petit peu driver. J'ai rencontré Robin Production comme ça, ceux qui me coproduisent aujourd'hui sur mon spectacle.
Okay.
Qui sont arrivés parce qu'on produit Kaamelott et Caméra Café. Mm. Et ils ont dit, bah non, Bertrand Recrute, donc on le met en télé.
Mm.
Et voilà, donc ça a commencé comme ça, l'histoire. Tu vois, et
d'accord.
Donc comme quoi tout mène, c'est ça, et c'est ça peut-être là. En fait, c'est pas tant le fait de raconter cette histoire qui est somme toute anecdotique, mais ce qui est intéressant dans l'anecdote, c'est que si un jour on m'avait dit,
ouais,
que tu as monté une boîte dans le recrutement,
ouais,
c'est pas le secteur quand même le plus sexe au monde, hein, quand même, on va pas se mentir, hein, voilà, et qui m'amènera à, ouais, une série qui fera que je me ferai repérer par un chien, qui ensuite m'amènera l'envie d'écrire et de machin et de monter sur scène, bah tu vois,
ouais, c'est fou,
objectivement,
ouais,
je pense que tu racontes ça à n'importe qui au début, au
on
départ.
On n'y croit pas, personne ne met deux billets.
Moi, aucun, ouais, aucun rapport ton histoire.
Et moi, je suis curieuse du moment où tu l'as annoncé à tes parents.
Ouais, compliqué. Parce que les gens ils comprennent pas quand t'as un truc. Quand t'es bien, quand t'es installé, que dans les dîners en ville, le statut social fait que tes parents sont contents parce que t'as la petite start-up qui marche bien au coin de la rue. Donc, ils comprennent pas, eux. Ils disent, mais pourquoi à chaque fois il va se remettre en danger?
Mais ils auraient pu se douter, puisque déjà, au moment où t'avais ta start-up, ils étaient au courant pour l'histoire de l'école de commerce et de la musique.
Ouais.
Ouais.
Ouais, 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 mais...
Donc, ils te savaient pas tranquille.
Ouais, mais à un moment, là, ils se sont dit, bon, bah, là, c'est génial. Par contre,
là, ça y est, ouais, il s'est trouvé. Ouais,
ouais, il s'est trouvé.
Ouais,
il y a
des signes, ça marche. Vois,
ouais, pour eux, ça y est, t'es installé.
Ça y est, c'est enfin.
Ouais, enfin, ouais. Exactement. Ouais, parce qu'après, ils n'ont jamais eu franchement de beaucoup de...
De crainte
de... Si, plutôt.
Okay.
Parce que pendant des années, quand je faisais ma petite boîte de prod, je faisais mes musiques, tu,
ouais,
vois, j'étais quand même le saltimbanque, quoi, pour eux.
Ouais.
Tu vois. Et en fait, je pense qu'ils n'aimaient pas trop ça. Mon père, lui, c'était un consultant dans une boîte d'audit, machin. Enfin, tu vois, ma mère était mère au foyer. Enfin, tu vois, c'était pas du tout dans un délire...
Artistique,
voire même plutôt l'opposé, même.
D'accord, très sérieux.
Ouais, très sérieux. Et donc, je pense qu'ils n'ont pas du tout compris l'histoire. Quoi.
Ouais.
Et donc, voilà, mais bon, c'est toujours la même chose. C'est un moment quand...
Et là, donc, il y a eu une deuxième... le moment où tu quittes ta boîte et où tu leur dis, c'est quoi? C'est un dîner? C'est un coup de fil? Un café en ville?
En fait, moi, j'ai c'est marrant comme quoi, tu vois... On dit toujours cette expression de tuer son père.
Ouais.
Moi, mon père est décédé quand j'avais Welcome, etc.
Okay.
Et en fait, je sais pas si c'était beaucoup plus facile de dire à ma mère, parce que ma mère, elle est plus flex.
Ouais.
Et mon père, j'étais bien content qu'il soit plus là, quoi.
Ok. Ah ouais.
Donc, mais je pense que je sais pas comment je l'aurais annoncé à mon père.
Ouais. Ah, ça l'aurait.
Et alors que j'avais 30 ans, tu vois.
Ouais.
J'ai envie de dire, je fais ma life, je fais ce que je veux et je gagne ma vie et je t'ai jamais demandé un rond. Donc, mais c'est juste que ça aurait été compliqué. Mais toujours est-il que j'ai dû l'annoncer à ma mère et en fait je pense que ça allait assez vite profession comédien, tu sais, quand même, donc,
ouais.
Et en fait le spectacle, donc je voyais bien que j'écrivais des trucs, voilà, et en fait quand je lui ai dit j'ai un peu saisi la perche de TMC, etc., en lui disant, voilà, j'ai ton fiston, on va passer machin. Donc, elle, pour elle, c'était alors
incroyable.
Ouais. Et puis en fait je sais pas pourquoi les parents, tu sais, tu fais des deux trois émissions
perçues par un tel ou tel,
et ça l'avait rassuré, comme si j'étais arrivé,
ouais, enfin,
comme,
c'est
alors
bon,
que justement au contraire je venais à peine d'arriver,
ouais.
J'étais pas du tout au contraire installé.
Et mais tu penses que ton père, ton spectacle sur l'adoption, ça l'aurait troublé de le voir aussi?
Ouais. En plus, il prend cher. On s'entendait pas très bien. Donc...
J'ai trop hâte de le voir. Ouais. Je tiens à dire que si je l'ai pas encore vu, c'est parce que tu m'as dit de revenir un peu plus tard.
Ouais,
c'est pas exactement. Manque de professionnalisme.
Il prendra encore plus cher d'ailleurs.
Ah mais oui, bien sûr, il faut. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Il faut tuer les pères, mais ta mère l'a vu le spectacle?
Et ma mère l'a vu. Alors ma mère, je pense qu'elle est complètement euphorique en fait. Elle, pareil, mais je sais pas. Ma mère avait du monde dans la salle. Elle était à la première, et donc je pense qu'elle est.
Elle avait envie de voir
ce qu'elle avait envie de voir, quoi. Mmh. Tu vois. Et je pense que ça, les parents aussi, c'est. Et puis je pense qu'il y a un truc, c'est on se le disait aussi tout à l'heure, c'est. Moi aujourd'hui, je suis sur scène, je suis complètement apaisé. Mmh. C'est-à-dire qu'en effet, il y a quelques l'adoption. Moi, je suis passé par des moments un peu, c'est un peu le sujet du spectacle. Je suis passé par des moments très très troubles et très durs. L'adoption, ça te fait remettre en cause sur plein de choses. C'est un peu un texte à trous et c'est un peu compliqué parfois d'avancer. Et puis il y a des moments dans ta vie où tu butes et puis c'est là où tu chutes même et c'est un peu compliqué. Et en tout cas, moi, c'est l'une des raisons pour laquelle moi l'adoption était pas compliquée jusqu'à un certain point de ma vie. Puis un jour, ma mère me donne ma mallette, qui contient mon adoption, mon dossier d'adoption. Et là, je pète un plomb, quoi, parce que là, je me dis, mais pourquoi tu me l'as pas donné avant? Et en fait, elle était pas au courant qu'il existait, parce que mon père, c'est lui qui avait tout géré.
Mais tes parents sont pas indonésiens d'origine?
Non.
Donc tu te savais que t'étais quand même adopté?
Ouais, je savais,
mais t'avais pas tous
les infos. J'avais aucune information sur moi, quoi, à part le fait que j'étais né à Jakarta, patati patata. Tu vois.
D'accord.
Et là, j'ai ouvert la mallette et c'était l'explosion totale, quoi, parce que j'ai eu plein d'infos.
Ah oui, d'accord,
Et sur mes parents biologiques, sur l'histoire, pourquoi du comment, etc. Machin. Donc là, j'ai un peu. Là, je suis parti en couille, clairement. Là, je suis parti en couille. Et pour revenir au sujet de ma maman, justement, elle qui a vécu tous ces moments un peu troubles, etc., de ma vie, me voir sur scène aussi souriant, apaisé, parce que t'es pas là pour cracher ta valda, hein, t'es là pour raconter quelque chose, mais pas pour être haineux, au contraire, ni rageux. Et je pense que pour une mère, voir son fils apaisé, raconter ça avec autant d'autodérision et se auto-vanner sur plein de trucs, je pense que c'est finalement assez rassurant, voire plus que.
Ouais.
Voire même aussi apaisant pour elle.
Ouais.
Et donc, je pense que c'est ça qui fait qu'elle était assez aussi heureuse et joyeuse de me voir sur scène. Après, voilà,
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est, ouais, je pense que c'est un aboutissement aussi pour un enfant ou pour une mère de voir son enfant heureux.
T'as des frères et sœurs?
Non, je suis fils unique.
Fils unique, d'accord. Ah, mais bien sûr, et tes parents, n'ont pas eu d'enfant biologique, ils ont juste...
Non, ma mère, elle a eu une maladie quand elle était jeune, donc avec une chimio et tout ça, qui fait que très jeune, elle a malheureusement pas pu... Elle a su qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Et mes parents sont mariés en connaissance de cause. C'est là où mon père, ils se sont rencontrés hyper jeune et ils s'est mariés en sachant que ma mère pourrait pas avoir d'enfant.
D'accord.
Tout de suite, ils ont eu l'idée, l'envie d'adopter assez rapidement. Ils ont galéré de ouf pour avoir un enfant.
Ouais.
Et voilà, et puis ils m'ont
C'est long, c'est un parcours du combattant.
C'est un parcours du combattant, c'est très dur, je crois.
Ouais.
Puis comme ma mère avait été malade quelques années auparavant, si tu veux, c'est qu'elle n'était pas sur ton fait que ton dossier, il se retrouve pas au haut de la pile, quoi.
Ouais.
Donc, puis là, les gens ont des mots durs, les psychologues, etc., je pense, pour créer le filtre dans la dessous. Donc, je pense que vraiment, mes parents ont dû vivre un enfer. Et une fois que je suis arrivé, je pense que ils n'étaient pas prêts à se remettre à rancer la machine pour
se dire, allez, on y retourne,
ouais, on y retourne
pour un deuxième.
Ouais,
non, c'est trop compliqué.
Ouais.
Donc, et quand tu as vu la mallette et toutes ces informations sur tes parents biologiques, est-ce que tu as eu le classique « faut que je les retrouve »
En fait, j'étais complètement paumé. Et je ne savais pas du tout ce que je devais faire, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est pendant mon spectacle que j'ai retrouvé des gens de mon orphelinat.
Incroyable.
Non, mais c'est un truc de ouf. J'en ai retrouvé trois.
Mais non.
Ouais. Trois filles, d'ailleurs.
Qui ont vu les infos passer sur ton...
Alors c'est... c'est soit même on vu en émission, soit machin. Enfin bref, et qui sont venus au spectacle, et on s'est parlé après, et qui m'ont donné même des infos sur mon orphelinat, parce que via leurs parents, enfin, il y a même une fille de mon orphelinat que j'ai retrouvée qui n'a jamais parlé d'adoption avec ses parents, et ça l'a oublié, enfin, son texte, ce que je racontais, toi, c'était un peu ça, le côté vertueux de ce spectacle-là, c'est que parfois tu as des très belles histoires qui gravitent autour. C'est, elle a parlé, donc elle a pris le courage à deux mains, elle s'est dit, si Bertrand a le courage d'en parler sur scène, moi je peux avoir le courage d'en parler à mes parents. Et donc elle a dit, je veux savoir comment j'ai été adoptée, etc. Donc en fait, ils lui ont dit, tu viens tel orphelinat, etc., etc. Et puis en fait, cet orphelinat-là, bah, cette personne qui t'a recueilli s'appelait un tel, et c'est un tel, et machin, et cette personne était horrible, etc. Enfin, voilà. Et en fait, bon, en fait j'ai pu reconstruire un peu le puzzle aussi grâce à ce spectacle. Donc c'est ça qui est assez troublant et assez fou. Donc c'est un truc de dingo.
C'est indiscret de te demander combien de temps t'es resté à l'orphelinat avant d'être adopté.
Je suis resté 4 mois.
4 mois, tu le lis dans une des pastilles.
Ouais, ouais.
Je sais plus c'est qui la comédienne qui te dit. Non, c'est Augustin Trapenard.
Ouais, ouais.
Qui te dit 4 mois.
Tu t'en souviens plus,
ouais, voilà, c'est ça.
Ouais. Exactement, ouais. Donc c'est
oui,
pas intéressant.
Quatre,
ouais.
Ah oui, donc 4 mois, donc oui, mais donc concrètement tu n'as pas de souvenir de.
Non, aucun.
Ouais.
Je suis retourné quand j'avais une dizaine d'années.
D'accord.
J'avais 10 ans, mais pour en aller en Australie avec mes parents, et mes parents m'ont demandé si je voulais faire un petit détour par Jakarta.
Ok.
Évidemment, je sautais de joie, et c'est ce que je raconte dans le spectacle, alors que je fictionne un peu en disant que c'est comme si j'y retournais il y a quelques années, alors que j'y suis retourné hyper jeune. Et ça a été un moment assez douloureux, parce qu'en fait, t'es pas prêt à 10 ans de voir en fait d'où tu viens, quand tu viens d'un milieu. Enfin, c'est moi, je viens des bidonvilles, donc l'orphelinat, tout ça, c'était très 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 pauvre, et quand toi t'arrives avec ton. Avec ta petite gueule, avec ton petit pot de gel sur la gueule, ton pompe Bermuda sergent major en velours, et que tu joues au piano, t'es complètement le petit bourgeois voilà, qui débarque dans un. Et en fait, j'étais pas prêt, quoi.
Ouais.
Et donc là, tu dis, mais putain, mais je viens de là, tu culpabilises. En fait, t'as un mélange de culpabilité,
ouais.
De trahison, de dire, est-ce que je suis pas au bon endroit, t'oses pas regarder les gens en face, t'as l'impression de. Je sais pas, Et là, commence déjà. Germe aussi un espèce de problème d'identité.
Ouais.
Parce qu'en France, t'as l'impression quand même que t'es le petit pygmée de la bande, et en Indonésie, t'as l'impression que t'es quand même le mec.
Le blanc.
Le petit blanc, voilà.
Privilégié.
Privilégié, etc. Donc en fait, c'est là où tu commences déjà à avoir une vraie dichotomie entre le regard que t'as sur toi et puis la réalité. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, ah, putain, ça va pas être cool à gérer.
Ouais.
Et puis après, tu mets ça tout sous le tapis, puis un jour, plus le dossier de naissance, ben, un jour, tout ça fait que t'exploses, et puis après l'explosion, tout redevient à peu près normal, et là, t'en dis, bah, j'ai envie d'écrire quelque chose.
Ouais.
Et donc, voilà.
Et puis finalement, cette obsession que t'as de te réinventer, elle est quand même, certainement peut-être liée avec ce trouble dissociatif de l'identité.
Sûrement, t'as raison.
Il y a quelque chose.
Oui, et puis se sentir, je pense, tu vois, faire son tomber dans des phrases toutes faites, j'ai pas envie d'ouvrir trop de portes, mais c'est juste que, se sentir un peu vivant, et je pense qu'en fait, la peur du vide, ça fait un peu partie aussi de ça. Je pense qu'on a, on a plusieurs identités, tu te sens un peu plein de choses à la fois, et puis je pense qu'il y a un truc qui est très fort, c'est que je pense que très naïvement, en fait, je fais les choses parce que j'ai pas envie que ça arrive à d'autres. Tu vois, je pense que là, je connais plein de jeunes, pas plein, mais j'en connais quelques-uns maintenant par le biais du spectacle aussi, qui sont adoptés et qui sont pas très bien aussi psychologiquement. Et je me dis aussi, si moi, très naïvement au début, quand j'écris ce spectacle, je me dis, tiens, peut-être que ça aidera des gens.
Ouais.
Tu vois. Et en fait, c'est très bizarre parce que c'est assez clivant. Il y a 50% des gens adoptés qui viennent, qui disent « Putain, le spectacle, je suis trop chambé. » Et d'autres qui disent « Pas prêt. »
Ok.
À recevoir le truc.
Ouais.
Et donc, parce que, enfin, c'est vrai que t'entends, j'y vais un peu,
ouais,
peu fort. Et c'est vrai que ça, je m'y attendais pas trop, en vrai. En fait, à une toute... Et d'ailleurs, c'est marrant.
Qu'il y a autant de tabous.
Ouais, puis il y en a qui sont pas prêts à recevoir des trucs.
Ouais.
Et voilà, donc c'est bon. Tu vois, c'est...
Ça questionne l'amour aussi, j'imagine.
Grave.
L'amour et
l'abandon.
L'abandon. Ouais.
Et en fait, c'est ça, ce qui m'intéresse aussi dans ce sujet-là, qu'à quelle identité qu'on a tous.
Ouais.
On n'a pas besoin d'être adopté pour avoir un sujet d'identité, de savoir qui on est et ce qu'on a envie d'être, de devenir. Et puis un sujet de l'abandon, on a tous été abandonnés une fois dans sa vie, que ce soit par des décès, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. On a tous vécu des abandons. Et moi, justement, c'est pour ça que je ne veux surtout pas que l'adoption devienne de mon spectacle, c'est ce que j'essaye de dire aussi. C'est. J'ai pas la primauté à l'abandon, et je suis pas en train de dire moi je suis le seul abandonné sur terre et ma vie c'est atroce, et justement c'est ça qui me faisait que je trouvais intéressant de traduire un peu aussi, c'est le sujet de l'abandon. On a tous été un peu abandonnés, et je pense que c'est un sujet qui parle à tout le monde finalement. Alors moi c'est par le biais justement de l'adoption et de ressentir tout ce qu'on peut ressentir quand on est abandonné par une mère dans un contexte pas évident, et elle avait sûrement ses raisons. Mais j'ai toujours dit non, mais mon spectacle ça fait aussi des ponts à des sujets existentiels qu'on a tous, quoi.
Ouais.
Et donc c'est ce qu'on essaie de ce qu'on a essayé d'écrire, qu'on va réécrire.
Et t'as le nom de ta chérie tatoué sur la main, c'est ça?
Ouais, mes enfants et ma chérie, ouais.
Ah, mais incroyable.
Ouais. pas intérêt à me larguer.
Non, c'est vrai?
Non, je dis, elle n'a pas intérêt.
Ah bah ouais, elle n'a pas intérêt. J'ai cru que tu disais, elle ne va pas tarder à me larguer. Non.
Ah bah elle n'a pas intérêt.
Elle n'a pas intérêt.
Je suis dans la merde.
Ah ouais.
Et mes enfants.
C'est laquelle? Ouais. Elle s'appelle comment?
C'est Marie.
Ouais. Marie, ouais. Et vos enfants?
Balthazar, donc là, c'est marqué Balt, et là, c'est Achille.
Oh waouh, c'est beau.
Donc,
ah ouais. Et il y a écrit quoi d'autre en tatouage? J'ai écrit Frisson. Non, Gisèle.
C'est marqué Gisèle.
Gisèle, c'est qui?
Ça m'inquiète. Si t'as vu Frisson au lieu de Gisèle, ça m'inquiète.
Je sais pas. J'ai vu ce que je.
Non, je disais, c'est ma grand-mère. Ouais,
d'accord.
C'était un peu l'une des femmes de ma vie aussi.
Mm. Tu t'es fait tatouer les gens autour de toi sur les mains.
Ouais, okay. Ça remonte dans tous les sens là.
Ah ouais, ouais. Et ta femme, est-ce que justement cette peur d'être abandonnée au départ, ça crée des angoisses quand tu rencontres quelqu'un dont tu tombes amoureux?
Ouais, de ouf. Bah ouais. C'est. Après, on s'est rencontrés hyper jeunes, donc évidemment, ça n'a pas toujours été le calme plat. Hein. Ça a été assez tourmenté. Mais oui, parce que t'as. C'est qu'en fait, je suis dans une quête perpétuelle de trouver la femme qui m'abandonnera plus jamais. T'as toujours cette impression qu'en fait, ce sera laquelle qui m'abandonnera pas. Et même ma mère, toi, d'adoptive, j'ai toujours eu cette crainte que dès qu'elle n'était pas dans mon sens, etc., elle allait se barrer ou machin. Donc, quand t'as une nana, t'as toujours cette impression de te dire, de toute façon, elle va se barrer un jour.
Mmh.
Donc, je peux comprendre que pour ta meuf, quand elle est là, mais j'ai pas du tout envie de me barrer.
Ouais.
Et là, toi, tu la regardes avec un air de, mais si, de toute façon, je sais que tu vas te barrer un jour.
Ouais.
Donc, ce qui est encore pire, parce que tu le dis même pas.
Ouais.
Et elle le ressent comme tel. Je pense que ça a dû être un enfer au début.
À te rassurer.
Et d'ailleurs, je lui disais, mais de toute façon, c'est pas grave, je sais qu'elle était au tout début de notre relation, je lui disais, mais de toute façon, c'est pas grave, je sais que tu vas partir. Et c'est pas grave, t'inquiète pas.
Donc là,
c'est violent, je sais.
Ouais.
Donc,
elle a dû beaucoup te prouver,
te
rassurer.
Ouais. Je pense que, et d'ailleurs, c'est pas du tout le. Je pense que ça, pour le coup, c'est pas du tout le. Pas du tout la bonne.
Je sais pas s'il y a un bon. Tu veux dire que toi, il fallait que tu saches qu'elle t'aime et que ce soit sérieux.
Ouais, mais en fait, je dis ça parce qu'en fait, ça ne sert à rien parce que tu ne seras jamais rassuré.
Ouais.
Donc, faisant ça, ou quand tu sais qu'in fine, tu sais que.
C'est la vie. Ouais.
C'est la vie. Et puis, comme je disais au début, c'est la femme de ta vie, tu sais à la fin. Donc, c'est complètement con. Et puis, encore une fois, ça met une pression sur l'autre qui n'est pas la bonne parce que c'est la vie, oui. Les gens se mettent ensemble, se barrent et c'est la vie. Et c'est pas rien à voir avec l'adoption, le fait qu'on t'aime, voilà. Mais moi, je remettais tout ça là-dessus. Je pense que c'était une mauvaise pression et puis voilà. Et puis après, on se soigne.
Ouais.
Voilà.
Avec des psys aussi.
Avec des psychiatres.
En plus de la scène, c'est bien de pas soigner tout par la scène.
Un coup de psy, ouais. Bah, c'est mon psy qui m'a dit vraiment, vous devriez,
monter sur ça. Génial. Ouais. Ils sont bons les psys. Hein.
Ils sont pas mauvais, ouais.
Ouais.
Enfin, certains. Ouais, il est venu la première, c'était génial. Donc c'est étonnamment, c'est lui qui m'a. Moi, j'avais évidemment, il sentait peut-être qu'il y avait une vraie appétence pour ça, mais il m'a mis un peu le pied à l'étrier. Donc, c'était assez fou.
Ouais, mon psy, pareil, avec l'écriture.
Ah ouais?
Ouais, c'est aussi lui qui m'a, avant le livre, qui m'a dit ne perdez pas l'écriture, n'oubliez pas l'écriture.
Ah bah comme quoi?
Ouais, comme quoi. Parfois, c'est des bonnes. Il faut trouver aussi, rencontrer, entendre la personne qui te dit la bonne chose. Tout ne peut pas venir de soi. Ensuite, est-ce que tu es d'accord pour qu'on passe au petit questionnaire de Proust?
Allez.
La qualité que tu préfères chez un homme?
La sincérité.
La qualité que tu préfères chez une femme?
C'est compliqué, parce qu'il y en a tellement des qualités que je recherche chez une femme. Il y a un timing ou il y a un
timer? Non.
La qualité que je préfère chez une femme, c'est un peu comme l'homme, c'est la sincérité aussi. Mm. Ouais.
Le principal trait de ton caractère?
Brut.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Qu'ils soient mes amis. Parce que c'est pas évident.
Ton principal défaut?
Instable.
Ton occupation préférée?
Mes enfants.
Ton idée du bonheur?
Mes enfants.
Où aimerais-tu vivre?
Entre c'est deux endroits différents. Le lifestyle parfait pour moi, ce serait Paris et puis d'aller vivre au bord de la mer.
Mmh.
Voilà. Donc c'est où tu vis. Je vais pas dire entre parce qu'entre entre c'est Angers ou Tours.
Un peu des deux.
Un peu des deux, ouais.
Ce que tu détestes par-dessus tout?
Les idées ou les choses qui ne se font pas parce qu'on n'a pas eu par paresse ou par fainéantise, on n'est pas allé au bout des choses. C'est quelque chose qui Ne pas avoir d'idées, c'est pas un problème, c'est juste de pas les faire, c'est un truc qui m'en fout. C'est, en fait, moi, je suis obsédé par créer, donc en fait, voilà, c'est dès que... Et d'avoir l'exigence de dire, bah voilà, faut le faire à fond et on y va. Mais je pense que le pire, c'est nourrir des regrets, je pense, pour moi.
Est-ce que t'as une devise préférée, genre un mantra, une phrase qui t'aide?
Non, surtout pas, justement, surtout au contraire.
En changer tout le temps?
Ouais.
Ne pas en avoir une?
Ne pas en avoir une, mais changer tout le temps. Ouais. Non, justement, je moi qui suis tatoué de partout, justement, c'est le seul truc que je me défends de faire, c'est d'avoir des...
D'avoir une expression.
D'avoir une expression. Non, la seule expression que j'ai qui est tatouée, c'est que je dis tout le temps à mes enfants, à mon entourage, c'est la vie est belle. C'est une forme de mantra d'une certaine manière. Mais
la vie est belle.
Mais ouais, la vie est belle, quoi qu'il.
Merci Bertrand.
Merci Rosa.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.